Voilà, donc effectivement, c'est nécessaire qu'il y ait quelques questions. Y a-t-il dans la salle? Moi, j'ai tout de suite une question à poser aux deux premiers intervenants, mais peut-être c'est plus à vous. Vous avez laissé entendre à un moment donné qu'il y avait des logiques qui pouvaient s'opposer entre, mais c'était vers la fin de votre papier, entre la sauvegarde de ce patrimoine scientifique, technologique et industriel et un problème culturel. Bref, est-ce le fait que la culture française a une difficulté à adhérer à cette idée-là, moi je l'ai ressenti un peu comme telle, et auquel cas, qu'est-ce que vous suggérez pour avancer dans ce système-là? Bref, y a-t-il une cloison?
C'est une question.
D'accord.
C'est une question d'opinion. De représentation de ce qu'est la France dans une évolution mondiale. Si on est pessimiste. On a l'impression qu'il y a une certaine marginalisation, ce que disait Gérard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un consensus, il n'y a jamais eu, je reprends ma phrase, vous me posez une question difficile, donc je vais un peu bafouiller. Je pense qu'il y a une sorte de consensus pendant ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, c'est-à-dire qu'un effort est de l'État par rapport à ce qu'on a qualifié à l'époque du désert français. Et une vision claire d'un rattrapage par rapport au modèle américain. Il est clair que les 10 dernières années, progressivement, même je dirais à partir des années 70, avec des mouvements différents, mais globalement, depuis les années 70, il y a d'un côté un questionnement général sur le développement scientifique, technique et industriel. J'allais dire globalement. D'autre part, le positionnement de la France dans ce développement, en raison de ses caractéristiques. Entre-temps, ce qui se passe, je trouve, c'est le scénario européen qui change un peu les données du problème. La difficulté, et on revient à des représentations, je vous parle sans. C'est ce que je pense. Entre le nord et le sud, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dans cette évolution de l'Europe dans le monde, de l'Europe par rapport aux États-Unis, par rapport maintenant au pôle des pays de l'Asie, du développement dans cette zone géographique, a tendance à basculer vers du bricolage du sud. Qui est très positif par moment, par exemple le miracle italien dans certains domaines, et il est difficile d'avoir une idée claire où tout le monde n'a pas la même idée. C'est pour ça, c'est un peu l'idée de la dernière partie de de ma présentation. Je pense qu'on a plusieurs scénarios en tête, et ça dépend de la manière dont on voit les choses, soit les pessimistes, soit les optimistes. Soit on a l'impression qu'au contraire, il faut revenir en arrière par rapport à un secteur qui a ses lois, qui a ses règles, etc. Vous le voyez bien dans toutes les réflexions. Mais je pense qu'il y a un certain malaise, parce que d'abord, beaucoup des centres scientifiques, industriels, se déplacent, ne sont plus forcément en France. Mais là, j'ai du mal à vous répondre, parce que j'ai travaillé avant sur les questions d'entreprise. Je travaille maintenant sur les questions de patrimoine et je n'ai plus une vision claire, si ce n'est individuelle, comme tout le monde, de cette évolution. Et je ne pense pas qu'il y ait actuellement des visions synthétiques. Je trouve qu'il y a des visions différenciées selon les évolutions. Je ne sais pas si je vous réponds.
Oui, allez-y. Vous présentez.
Valérie Ostapenko, présidente de l'association Sauvegarde et Promotion du Gand de Grenoble. Question à Monsieur Gérard Chouteau et à Madame Catherine Guenca. excusez-moi si j'ai eu... Donc voilà, pour les aides concrètes que vous pouvez accorder dans le cadre de votre mission aux associations patrimoniales qui justement s'occupent de sauvegarde et de valorisation du patrimoine industriel. Notre association travaille depuis 2004 justement sur l'inventaire et donc la valorisation du patrimoine des Gantiers grenoblois. Et donc actuellement justement nous préparons une publication qui est donc en quelque sorte résultat de ces 10 années de recherche très actives. Donc vous pouvez consulter les panneaux qui sont présentés donc sur les grilles. Et donc est-ce qu'il y a pratiquement est-ce qu'il y a les aides de la part de votre mission pour participer à cette publication, pour voir votre logo éventuellement apposé sur l'ouvrage. Voilà, donc parce que et c'est très intéressant ce que vous avez parlé des journées d'études. Nous sommes tout à fait prêts à participer pour les expositions, pour les projets d'exposition. Mais qu'est-ce que vous proposez concrètement aux associations qui travaillent sur les sujets qui vous préoccupent ?
Gérard ou Philippe, vous répondez, mais c'est une discussion que vous pouvez ensuite avoir en particulier. Gérard, Philippe.
Oui, merci pour votre question, madame. Très simplement, nous sommes dans le milieu associatif et dans le cadre de cette mission, c'est une mission de sensibilisation, d'aide et d'accompagnement à la valorisation. Donc, en ce qui concerne les moyens financiers, nous n'avons pas de budget à proprement parler, si ce n'est un appui technique, comme l'a rappelé madame Cuenca tout à l'heure, un accompagnement, la mise à disposition de connaissances, d'expertise pour vous faciliter les choses. Mais si votre question est financière, la réponse n'est pas ici. Ai-je bien répondu à votre question ? Ah ben le soutien moral, chère madame, vous serez toujours la bienvenue pour vous soutenir le moral. Actuellement, la chaudière est en panne, revenez plus tard. Non, c'est bien entendu, madame. C'est une de nos volontés, quand vous regardez ces garçons là-bas, tes images, par exemple, on les a vus dans des circonstances passionnantes, et tout à coup, ils sont intégrés dans le groupe Thalès. Enfin, il vous racontera ça plus tard. Oui, donc le soutien moral, vous avez raison, est important, parce que la ténacité, ça fait, mais ça ne fait pas tout. Soyez rassurée, madame, on ne peut pas tout citer. Et
Colette Alibert, AFID. Simplement pour vous répondre, on a strictement limité, si possible, au patrimoine contemporain, qui est déjà un large domaine et justement qui n'a pas suffisamment sensibilisé le public jusqu'à maintenant. La Ganterie, dans ma présentation, j'ai bien hésité à la placer ou pas, mais comme je n'avais que 10 minutes, eh bien, je n'en parlerai pas. Donc ne soyez pas vexés, on connaît les associations, le travail qu'elles font, qui est remarquable, mais il fallait mettre des limites.
Oui, c'est pas le muséum, là, c'est plutôt la conservatrice du patrimoine qui va vous répondre, madame. Concernant la Ganterie, hein, c'est le musée dauphinois qui, scientifiquement, avec le Conseil général de l'Isère, s'occupe de ce dossier. Il y a aussi d'autres dossiers qui sont faits localement avec les communes. Ici, nous parlons du patrimoine scientifique et technique dans un secteur. Si vous voulez, on s'est un peu réparti quelque part les domaines. Le muséum s'occupant de l'environnement et de ces choses-là. C'est plutôt côté du musée dauphinois. Traditionnellement, il y a la direction départementale du patrimoine que cette action, j'imagine que vous les avez déjà rencontrés. En tout cas, localement, que cet acteur est incontournable normalement. Là, on parle de physique, de chimie, d'instrumentation scientifique. Voilà, alors en fonction de votre collection et de votre travail, c'est à voir, mais c'est plutôt de ce côté-là, a priori, que je le ressens. Hein. Voilà.
Oui, bonjour, Lucie Léga, je suis étudiante à l'Université de Savoie en patrimoine. Et j'avais une question, en fait, c'est sur tout ce qui est les objets qui sont inventoriés et mis en ligne sur la base de données. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite, où est-ce qu'ils sont conservés. Est-ce que vous savez s'ils sont conservés même par les entreprises ou les laboratoires de recherche?
Oui, je ne sais pas si ma réponse va vous satisfaire. Enfin, moi, je ne peux parler que des objets qui ont été inventoriés par aconite. Donc, on est tous confrontés à un énorme problème, c'est celui des lieux de conservation. Alors, en ce qui concerne aconite, à part l'informatique, pour les objets scientifiques, il n'y a pas de lieu de conservation. Donc, à chaque fois qu'on repère des objets et qu'on va les inventorier, on convainc les institutions, les industriels, les gens qui les ont, qui les possèdent, de les garder. Donc, les objets de la base de données, quand vous consultez cette base de données, vous verrez que sur la fiche, il est indiqué le lieu où sont stockés ces objets. Alors, il y a une conséquence quand même à tout ça, c'est qu'à partir du moment où les objets sont inventoriés sur la base de données, et notamment sur la base de données nationale, ça veut dire que pour eux, c'est une garantie de conservation. D'ailleurs, qu'on explique aux gens qu'une fois que vous les avez mis et inventoriés, vous ne pouvez plus les mettre à la poubelle. Oui. Donc, voilà. Alors, s'ils le font, c'est clandestinement. Mais voilà, c'est... Je ne sais pas si vous êtes satisfaite, mais il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'équivalent du musée des arts et métiers à Grenoble.
Oui,
vous trouverez des collections, des collections. Comment ? Oui, c'est bien dommage, mais c'est une réalité. Voilà.
Je peux compléter peut-être ? Oui, je peux compléter au niveau national, puisque vous êtes à Saint-Maur. Effectivement, dans la mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire l'instrumentation et la mémoire, on propose aux acteurs de garder au maximum leurs objets, comme l'a dit Gérard, sur leur lieu d'origine, pour des raisons historiques. Parce que ça fait partie de l'histoire de la structure et quand dans la mesure du possible, je pense que c'est absolument essentiel et vous le verrez dans tout ce que présenteront les chefs de projet qui sont là aujourd'hui et les autres acteurs de la région, que dans la mesure où vous pouvez garder ces objets sur place, vous y gagnez à tout point de vue pour expliquer l'histoire de votre institution. Donc on apprenait ce genre de choses. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours faisable. Donc ce qui se passe dans la plupart des structures universitaires au niveau national ou de recherche, c'est que premièrement, le fait d'être en relation avec d'autres acteurs culturels leur permet parfois de faire des dépôts dans des lieux de musées ou autres structures culturelles. Ça, c'est une question de convention entre eux. Et la deuxième chose, c'est souvent, ils arrivent finalement à trouver des lieux où ils peuvent présenter ces objets, que ce soit les halls des universités ou des UFR, enfin des composantes, où finalement on peut mettre beaucoup de choses, ou des lieux de stockage provisoires, ce qui n'empêche pas de continuer l'inventaire et de les valoriser, comme vous le disait Gérard, à travers la base de données, le site, etc. Effectivement, on leur donne un statut en les inventoriant, on les protège quelque part comme ça, ce qui est déjà un début, mais ça n'est pas évidemment l'idéal, et c'est à chaque structure de trouver sa solution. Mais là, on peut vous apporter des conseils. Voilà.
Je voudrais, c'est simplement un mot, c'est que nous avons une représentation de la conservation historique dans des institutions que sont les musées, et en particulier pour des patrimoines qui sont tellement liés à des activités. Je pense que ce dont il est question aujourd'hui, mais il y a déjà le modèle dans les Beaux-Arts avec les centres d'art contemporain qui se sont constitués en affirmant qu'ils ne voulaient pas avoir de collection et qui progressivement se transforment en musée. Donc je crois qu'en ce qui concerne le patrimoine dont on parle ici, c'est la conservation institutionnelle est en définition, est en expérience, ce que montre Catherine. Et il n'y a pas de solution unique. Il y a d'un côté des musées comme le musée comme les grands musées dont Catherine a parlé tout à l'heure, qui cherchent, qui sont dans une ambiguïté profonde. D'un côté, ils se rendent bien compte qu'ils doivent tenir compte du contemporain, et de l'autre côté, ils sont dans une impossibilité matérielle ou financière de le faire. D'autre part, c'est une autre conception de la sauvegarde du patrimoine qui va vers une conception in situ. Il y a des domaines, par exemple, comme les paysages, comme les bâtiments, où il y a une tendance à dire que les pays dans lesquels il n'y a pas eu des événements majeurs comme la Révolution française, il est mieux que les bâtiments soient conservés par les personnes qui les utilisent. Donc vous voyez, je crois que c'est une question très importante, l'institutionnalisation de la conservation, mais j'ai l'impression que dans ce secteur-ci, à l'heure actuelle, c'est en expérimentation.
Rapidement, dernière question.
Il remarche. Bonjour. Je suis Carion de Villain, laboratoire Gypsalab. Donc je présenterai cet après-midi un peu notre collection, puisqu'on a la chance d'avoir un petit peu de matériel ancien. Et ma question concerne le dernier point du transparent de Chouteau concernant l'institutionnalisation, et en particulier dans le cadre des responsabilités aux compétences élargies des universités. Donc les masses budgétaires, elles sont compliquées à gérer. Donc est-ce que vous pensez, quelles sont les obligations, entre guillemets, pour la mission sur la conservation du patrimoine dans un contexte financièrement difficile.
Gérard, j'ai envie de mettre mon grain de sel là-dessus. Bon, il se trouve que je serais amené à demander de faire un peu une synthèse. Je pense que ça fait partie d'une recommandation forte et qui est à l'adresse des établissements universitaires et des centres de recherche. C'est d'avoir, sur la base de cette expérience, disons, de quelques années, de l'inscrire fortement dans une politique d'établissement globale et avec un financement adapté, et j'irai plus loin. Je crois que ça a dû exister à un moment donné, aussi à l'inscrire dans la politique contractuelle des établissements. Il me semble que ça a été fait à un moment donné. Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que ça existe toujours? Mais là, il y a un point. Mais je me permettrai en finale de faire un petit mot là-dessus. Gérard, tu es d'accord?
Bon, cette loi d'autonomie des universités, sur laquelle il y aurait certainement beaucoup à dire, je trouve qu'elle offre quand même des possibilités d'action, parce qu'elle laisse la possibilité aux universités de définir elles-mêmes une certaine politique et de définir les moyens qu'elles vont y mettre. Donc je crois que c'est une chance d'une certaine manière. Bon, voilà. Alors je voulais vous donner, dans la suite de l'intervention qui a précédé, je voudrais vous donner une petite information sur la conservation du patrimoine dans les lieux. Il y a ici un objet qui est en face, dans la salle de travaux pratiques, que vous pourrez voir en fonctionnement, qui est un liquéfacteur, encore une fois, mais cette fois-ci un liquéfacteur d'azote, enfin d'air, de la marque Philips, et qui sert encore actuellement aux travaux pratiques des étudiants, mais qui est un objet historique. Donc j'ai convaincu le directeur du département de génie thermique de mettre cet objet dans l'inventaire du patrimoine scientifique, ce qui va être fait, et il va rester là. Donc c'est un exemple d'objet patrimonial qui reste en place et qui d'ailleurs continue à servir. Donc vous pourrez aller jeter un œil dessus, vous pourrez même voir, si vous avez de la chance, couler un peu d'air liquide de l'appareil. Il faudra qu'on mette d'accord avec, mettez pas vos doigts dedans, et je me mette d'accord avec le directeur pour que vous ayez accès à la salle.
Vous pourrez traverser la salle de TD des étudiants qui est vide pour admirer, si vous le souhaitez, ce liquéfacteur en marche. Et en traversant totalement la salle, vous arriverez quasiment directement à la salle d'inscription où se fait la pause. Donc bonne pause et à très bientôt. Vous pouvez continuer à échanger, bien sûr, pendant les pauses.
Merci beaucoup.